Bonjour à vous tous et à vous toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'À plus d'un titre consacré ce soir à un livre qui s'appelle Deux voix pour une école, édition des clés de Brouwer. Un dialogue entre Xavier Darcos et Philippe Mérieux qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci à Monique Pacalet et à Christophe de Souza qui réalise techniquement l'émission. Petit clin d'œil aussi à nos amis d'accueil des villes françaises et salut à Nadine Bess et à toute l'équipe du musée d'art et d'industrie qui nous accueille dans cette salle très agréable et avec toujours sourire et amabilité. Voilà, ces petits clins d'œil faits, on entame tout de suite le vif du sujet autour de ce livre. On parlera peut-être aussi du dernier livre, alors tout dernier, qui est sorti il y a quelques jours de Philippe Mérieux, « Faire l'école, faire la classe » aux éditions ESF. Mais on va essentiellement parler aujourd'hui donc de ce livre qui a une histoire un peu mouvementée. Jacques, je vous laisse le soin de nous faire découvrir un peu plus Philippe Mérieux.
Alors, ce livre est dû à Philippe Mérieux, d'une part, et puis à Xavier Darcos. C'est un face-à-face, un homme de droite, un homme de gauche, sur un sujet qui les réunit. Alors, je crois qu'on va parler d'abord de Philippe Mérieux, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Donc, vous êtes l'homme de gauche. On dit un cathode de gauche, c'est ça?
Oui, on peut dire ça. Moi, je suis... historiquement, un homme qui est à la croisée, on va dire, de l'éducation populaire, de l'action catholique et de toute une série de mouvements qui font que je me suis retrouvé très tôt un militant dans cette mouvance qu'on pourrait appeler des cathos de gauche, effectivement.
Alors, vous avez eu un diplôme d'instituteur, une maîtrise de philosophie, un doctorat de lettres et de sciences humaines, et vous avez enseigné dans un collège, et en particulier dans la région, vous avez fait une expérience à Rive-de-Gier.
À Rive-de-Gier, je n'ai pas fait moi-même une expérience. J'ai accompagné toute une série de collèges de la vallée du Gier, à l'époque où, en 1981, on avait identifié un certain nombre de collèges à qui l'on avait proposé d'être en rénovation. C'était la rénovation des collèges. Effectivement, j'ai accompagné toute une série de collègues. C'est un souvenir excellent pour moi.
Et puis, vous avez enseigné à l'université et... Dans un lycée professionnel. Donc vous avez rencontré des élèves et des classes, des niveaux tout à fait différents.
Oui, j'ai essayé dans ma vie professionnelle de connaître un petit peu tous les échelons et tous les niveaux de l'institution scolaire, effectivement. Oui.
Et puis vous êtes à l'origine des IUFM.
Non, on ne peut pas dire que je sois à l'origine des IUFM. J'ai participé avec d'autres à la création des IUFM. Alors que la loi de 1989 indiquait précisément qu'il fallait rénover la formation des enseignants. Nous avons, avec une dizaine d'autres experts et sous la direction du recteur Bancel, élaboré un rapport pour proposer effectivement la création de ce qui s'appelle IUFM aujourd'hui.
Alors les IUFM, c'est le rassemblement de trois institutions.
Et les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres, ont rassemblé les écoles normales qui formaient les instituteurs, dorénavant appelés professeurs des écoles, les CPR, centres pédagogiques régionaux, qui formaient les professeurs de lycées et collèges, et les ENNA, École nationale d'apprentissage, qui formaient les professeurs de lycées professionnels. Donc on a aligné l'ensemble de ces formations sur un même niveau, le niveau licence, et on a structuré la formation en une année de préparation au concours et une année de formation en alternance professionnelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les IUFM.
Alors, c'est en somme au milieu du cursus que les élèves passent un examen.
Les étudiants passent un examen entre, la première et la deuxième année. C'est un problème. Moi, je n'étais pas d'ailleurs partisan de cette structure-là. Quand on a créé les IUFM, j'étais partisan d'un examen plutôt au début, avec deux années pleines de formation professionnelle, sur le modèle de ce qui existe d'ailleurs dans les pays étrangers. D'autres collègues universitaires étaient partisans, eux, d'un examen à la fin, avec simplement un test au début. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, pour vos auditeurs, il faut savoir que nous avions travaillé d'une manière contradictoire, partisans de l'examen au début et partisans de l'examen à la fin, que nous n'avions pas pu nous mettre d'accord et que ceci est arrivé un jour sur le bureau du ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Lionel Jospin à l'époque. Et ça a été tranché d'une manière assez bizarre, puisque le recteur Bancel m'a appelé un lundi en me disant « Écoutez, je suis revenu d'un match de rugby dimanche avec le ministre et dans l'avion, il m'a dit si on n'arrive vraiment pas à mettre d'accord les gens qui veulent le concours au début et ceux qui veulent le concours à la fin, mettez-le donc au milieu.
Oui. Ce qui était une première.
Ce qui était une belle manière de prendre une décision politique, une belle forme de compromis. Les hommes politiques prennent parfois comme ça des décisions tout à fait étonnantes. Alors j'ai expliqué qu'on n'avait pas de simulation, que nous avions fait des hypothèses sur le concours au début, sur le concours à la fin, mais personne n'avait travaillé sur le concours au milieu, on ne savait pas ce que ça donnait. On m'a dit non, on trouvera bien, on s'en sortira, puis j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de justification. Et c'est alors qu'on m'a dit, mais on va trouver, faites-nous un petit texte sur la régulation par le centre. Et effectivement, on a construit, a posteriori, une justification parfaitement cohérente pour expliquer qu'on régulait par le milieu, au lieu de réguler par l'entrée ou par la sortie. C'est pour vous dire comment sont prises parfois des décisions politiques qui pèsent sur la vie des citoyens.
Et puis, Claude Allègre, vous avez demandé d'organiser la consultation des lycées.
Oui, ça c'est un très bon souvenir pour moi, effectivement. Claude Allègre m'avait demandé de réfléchir à la manière de faire évoluer le lycée et je m'étais dit que la meilleure manière de réfléchir à cela, c'était d'associer les professeurs, les parents, mais aussi les lycéens à une réflexion. Alors on m'a beaucoup reproché d'ailleurs de consulter les lycéens en disant « les lycéens n'ont pas à choisir sur ce qu'ils doivent apprendre, sur ce qu'ils doivent savoir ». Mais la consultation que nous avons menée à l'époque n'était pas du tout un référendum ou un plébiscite pour dire aux lycéens, vous allez choisir vous-même d'apprendre plutôt la cuisine que la menuiserie ou plutôt la physique que la géographie. C'était une manière de les faire réfléchir et de réfléchir avec eux sur comment, compte tenu des programmes tels qu'ils sont et des orientations de programmes tels qu'ils sont, on pouvait faire évoluer les enseignements et faire évoluer le service rendu aux familles et aux élèves. C'est d'ailleurs quelque chose qui me tient encore beaucoup à cœur que de rendre un meilleur service aux familles et aux élèves, en particulier que quand un élève se trouve en difficulté parce qu'il a un problème avec un prof de maths, parce qu'il ne sait pas faire un devoir de français, parce qu'il n'a pas compris les consignes de ce qu'on lui demande de faire en géographie, eh bien, qu'il trouve dans le lycée, dans le collège, dans l'école, quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui il puisse s'entretenir, qu'il puisse lui donner une réponse et qu'il ne soit pas obligé d'aller à l'extérieur payer un cours privé ou chercher s'il en a le privilège, le grand frère ou la grande sœur ou la bibliothèque, mais que ce soit bien dans l'école que cette interlocution soit possible. C'est ce que nous avions appelé à l'époque, et que je crois toujours d'actualité, la nécessité de faire de l'école son propre recours. Quand quelqu'un est en difficulté dans l'école, il doit pouvoir trouver dans l'école des gens qui l'aident et qui le renseignent, et pas débourser de l'argent pour que, finalement, il puisse s'en sortir grâce à ses fonds privés.
Alors, depuis 10 ans, il y a eu 5 consultations. Celle de Claude Allègre était la 4e. Et puis, il y en a une beaucoup plus récente.
En cours actuellement.
Il y a celle du grand débat. Votre livre devait sortir un petit peu avant ce grand débat. Et puis, il a été retardé parce que le ministre, et je crois comprendre, trouvait que c'était pas très normal le premier ministre estimait que c'était pas très normal que le ministre donne son point de vue avant d'avoir consulté la base. Donc, alors, ça a été remis au 2 décembre.
Ça, c'est la version officielle.
C'est la version optimiste, ça.
Ça, c'est
un peu langue de bois quand même.
Les événements sont passés, on peut dire plus précisément ce qui s'est passé. En réalité, nous avons écrit ce livre sous forme d'un dialogue très constructif et très chaleureux avec Xavier Darcos. Et je crois que c'est très important que des gens qui ne sont pas complètement d'accord, mais qui partagent des mêmes passions, puissent discuter et débattre de façon constructive. Hein, pas s'invectiver, pas s'envoyer des noms d'oiseaux, mais se dire qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que je propose, comment on peut avancer ensemble, quelle est la meilleure solution. Et on avait fait quelque chose qui, je crois, tenait bien la route. On l'a fait au mois de juin et juillet dernier, à un moment où des événements assez douloureux avaient secoué l'éducation nationale.
Dans les vacances.
D'importance, avec des grèves lourdes à répétition. On l'a fait aussi à un moment où, à mes yeux, mais je parle pour moi ici, Xavier Darcos pensait que le gouvernement de l'époque ne ferait pas la rentrée. On l'a donc fait dans un moment où finalement, Xavier Darcos a sans doute été relativement libre dans sa parole, pensant qu'au fond, ce livre sortirait quand il serait plus ou moins dégagé des contraintes du devoir de réserve ministériel.
Sous un autre titre.
Et sous un autre titre, oui. Mais enfin, bon, la question du titre n'était pas très importante. Donc, quand ce livre est arrivé au mois de septembre, eh bien, on s'est aperçu que la rentrée, en fait, se passait plutôt bien pour les ministres, qu'ils n'étaient pas menacés, que le gouvernement continuait, en tout cas, maintenait le cap qui s'était décidé, et que, disons, les propos de Xavier Darcos de l'époque pouvaient peut-être apparaître plus autocritiques qu'il n'était nécessaire de l'être. Et donc, on a procédé à une forme de toilettage. Voilà. On a suspendu la publication à la demande du Premier ministre et des conseillers du Premier ministre, et le ministre de l'Éducation, le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos, a fait procéder à un petit toilettage pour le rendre plus politiquement correct, de son point de vue, parce que moi je n'ai rien changé à mon texte.
La voix de Lassa, cette chanteuse d'origine mexicaine très étonnante qui vient de sortir un nouveau CD. Au cours de cette émission consacrée à Deux voix pour une école, le livre d'entretien de Xavier Darcos et de Philippe Mérieux. Alors, vous avez souligné tout à l'heure, Philippe, la cordialité et parfois même l'humour et les clins d'œil que vous vous êtes adressés. Ça m'a beaucoup surpris parce que on sent dans le livre une certaine connivence entre vous, avec même parfois des retournements de situation étonnants. Il y a au moins 5 ou 6 citations dans le livre qu'on pourrait très facilement attribuer à Philippe Mérieux et qui sont de Xavier Darcos.
Et vice-versa.
Et vice-versa.
Oui, parce que je crois que le clivage politique en France est quand même assez, on le disait tout à l'heure, caricatural. Quoi. Les hommes politiques sont trop souvent enfermés dans un jeu de rôle. Ils disent ce qu'on attend d'eux, ils ont une sorte de langue de bois un peu autour de « puisque je suis à gauche, je dois penser ça, puisque je suis à droite, je dois penser ça », et puis je reste enfermé dans ce que je dois penser, dans ce que l'opinion considère comme étant la bonne pensée pour mon parti. Et je crois que ce qui a été intéressant, et ce qui est pour moi un progrès dans le débat démocratique, c'est que des citoyens, alors qui sont des citoyens qui connaissent un peu le sujet l'un et l'autre, puissent regarder ensemble un problème sans se préoccuper de savoir s'ils sont politiquement corrects du point de vue de leur propre camp. C'est-à-dire si ça va plaire ou pas plaire, mais en se demandant plutôt est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà. De savoir si c'est bien ou pas bien pour les citoyens, c'est quand même plus important que de savoir si ça va faire plaisir ou provoquer des grincements de dents dans notre groupe politique. Et je crois que nous avons, par le passé, sur ces questions d'éducation, été à cet égard trop heureux et dogmatiques. On n'a pas véritablement recherché suffisamment à être constructif, indépendamment des options politiques qu'on peut avoir les uns et les autres légitimement, des choix de société. Mais il y a des choix de société, il y a aussi des valeurs. Avec Xavier Darcos, nous partageons des valeurs humanistes, des valeurs, on peut dire chrétiennes aussi, il est chrétien, je le suis également. On peut dire des valeurs aussi de conviction au regard de l'importance de la formation littéraire dans la formation de la personne. C'est un homme de lettres et je suis moi-même un professeur de lettres. Donc nous avons des proximités très importantes et ces proximités n'empêchent pas les désaccords. Elles les rendent plus féconds, les désaccords, parce qu'ils sont plus constructifs.
Il y a des petits clins d'œil comme ça. On apprend, par exemple, parmi les innombrables sujets que vous évoquez, que si vous aviez suivi les logiciels d'orientation, vous devriez être, cher Philippe, architecte paysagiste. Oui. Racontez-nous cette petite histoire.
Non, mais c'est pas...
C'est aussi pour montrer que ce livre est à la fois dense, riche et intéressant, mais qu'il est aussi plein de vies. Il y a des hommes derrière ça, pas simplement des échanges d'idées.
Oui, bien sûr, il y a des hommes, et je crois, assez authentiques et sincères. Il y a beaucoup de sincérité, on a pris beaucoup de plaisir à parler. Alors oui, effectivement, je pointais à un moment de la discussion l'existence d'un certain nombre de logiciels qui existent aujourd'hui et qui, si vous entrez un certain nombre de données sur qui vous êtes, vos goûts, vos soucis, mais aussi vos compétences en telle et telle discipline, votre histoire, vous propose une orientation professionnelle et vous explique quelles sont les études que vous devez faire. Alors moi, je suis extrêmement sceptique à l'égard de ces logiciels informatiques. Je trouve que la plupart du temps, c'est extrêmement proche de l'astrologie, qu'on est dans un registre qui est d'une certaine manière très aléatoire et qui cherche toujours non pas à aider les gens à se construire dans la liberté, mais à les figer dans une espèce de destin qui serait préparé et scellé à l'avance. Or, si l'homme a bien une spécificité, c'est de démentir son propre destin et de faire ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas prévisible, ce qui n'était même pas imaginable. C'est ça qui fait d'ailleurs progresser à la fois chacun de nous et l'humanité tout entière. Donc effectivement, si j'en étais, j'ai fait pour m'amuser un test en me soumettant aux règles, un de ces tests qui existent dans le commerce sur comment choisir votre métier, et à partir de mes compétences, on m'a donné un métier qui était celui d'architecte paysagiste, ce qui est un très beau métier d'ailleurs, très agréable, et que je ferai peut-être dans une deuxième vie.
Alors, le livre est un peu chronologique, après une sorte de point de constat sur la situation actuelle, sur laquelle d'ailleurs il y a de très larges consensus entre vous. La désespérance des enseignants, c'est une sorte de point de départ, de constat, la souffrance, le malaise, la difficulté dont les grèves ont été le signe. Les explications là-derrière, elles sont compliquées, nombreuses, mais peut-être les plus importantes.
Oui, alors, le livre est quand même construit à un moment où nous sortons d'une période extrêmement dure, comme l'éducation nationale n'en avait pas vécu depuis très longtemps. Une période d'un conflit lourd, d'un conflit difficile, d'un conflit que les Français d'ailleurs ont mal compris, qui a été vécu de manière douloureuse d'ailleurs par les enseignants, qui ont eu le sentiment à la fois de gagner et de perdre, ou en tout cas de pas savoir ce qui gagnait et ce qui perdait. Une crise sans sortie de crise. D'habitude, quand il y a une crise, il y a une sortie de crise, il y a un gagnant, un perdant. Là, on ne sait pas qui a gagné et qui a perdu. Il n'y a pas eu de démission de ministre, il n'y a pas eu non plus une espèce de Grenelle où on aurait fait des accords, donné aux gens ce qu'ils voulaient. On a fait une crise, puis les gens sont partis en vacances, puis ils sont rentrés. On leur a dit, eh ben, on ne vous payera pas vos jours de grève, et puis voilà. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, d'assez étrange, que cette espèce de soubresaut, sans sortie, sans issue, sans que quoi que ce soit vraiment réglé. Et je crois que c'est dommage, effectivement, et que si le débat sur l'école qui est en cours aujourd'hui permet d'avancer, ce sera bien. Alors, les origines de ce malaise, Xavier Darcos les attribue, et je suis assez d'accord avec son analyse, au fait que les enseignants aujourd'hui ne se sentent plus en situation d'assumer ou de faire fonctionner l'ascenseur social. Globalement, les enseignants, on va dire, d'il y a 50 ou a fortiori 80 ans, étaient capables de sortir un élève ou deux élèves ou trois élèves de leur classe de petits paysans ou de petits ouvriers, de les amener à l'école normale d'instituteurs, de les amener ensuite à l'école normale supérieure et même d'en faire un président de la République. Puisque la grande réussite de l'école, c'est quand même Georges Pompidou. Un petit-fils d'agriculteur qui avait une vache, fils d'instituteur et lui-même président de la République. Ça, c'est une promotion sociale fantastique. Comme trajectoire, en deux générations, passer d'un agriculteur avec une vache à président de la République, c'est bien. C'est un signe que la République promeut ses enfants valeureux. Or, aujourd'hui, on n'a plus le sentiment que c'est vraiment possible. Aujourd'hui, et d'une certaine manière plus encore dans les années 2000-2004 que dans les années 1980, où pourtant Bourdieu et d'autres avaient dénoncé la reproduction, aujourd'hui, on a le sentiment que, bon, Les enfants qui sont faits pour réussir, réussissent, parce qu'ils sont fils d'enseignants d'abord, ce sont eux qui réussissent le mieux, de médecins, de notaires ou de cadres, et puis que les enfants issus de milieux très défavorisés, en particulier les enfants issus de milieux de l'immigration et du chômage, et plutôt du chômage d'ailleurs que de l'immigration, sont des enfants qui ont extrêmement peu de chances d'accéder à des fonctions qui les valorisent. D'où cette espèce de désespérance des enfants eux-mêmes, qui ont le sentiment que, ma foi, à l'école, de toute façon, puis moi j'ajouterais à l'école, on sait bien que ce n'est pas l'école qui promeut les enfants aujourd'hui, c'est la Starac, hein, ou le Loft, mais ce n'est pas l'école qui fait réussir. Les profs auraient intériorisé peut-être un peu cela, en se disant, on ne sert plus tellement à grand-chose. On fait cours, et puis ceux qui devaient s'en sortir s'en sortent, et ceux qui ne devaient pas s'en sortir, eh ben, ne s'en sortent pas. Alors, Xavier Darcos insiste beaucoup sur cette interprétation. Moi, je crois qu'elle est assez largement vraie. J'y ajouterai une certaine forme d'absence de boussole. Je crois que les enseignants croulent sous des tas de tâches. Contrairement à ce qu'on dit, ils travaillent beaucoup, 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 beaucoup. Mais sans savoir quelles sont les tâches importantes et quelles sont celles qui le sont moins, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et qu'est-ce qui est secondaire. Alors, par exemple, si vous êtes enseignant dans le premier degré, vous avez une multitude de choses à faire. Il faut enseigner aux élèves l'hygiène, la citoyenneté, la sécurité routière. Il faut faire l'apprentissage de la sexualité, mais aussi de l'Europe, mais aussi de toute une série de choses. Chaque semaine, vous avez une journée particulière qui vient se rajouter. Et si vous faites tout ça, vous n'avez plus le temps de faire le programme. Donc, les gens se disent, mais après tout, quel est mon vrai travail, quoi ? Je sers à quoi ? Alors, il y a des débats, il y en a qui disent, mais on nous transforme en assistante sociale, en assistants sociaux, d'autres en éducateurs, d'autres en animateurs, d'autres qui disent, oui, mais on nous transforme exclusivement en transmetteurs de discipline. Donc, il y a un malaise qui est lié, je crois, à l'absence d'une perspective claire. On a empilé les missions, on a empilé les demandes au corps enseignant, sans suffisamment dire qu'est-ce qui était vraiment important. Qu'est-ce qui était la mission première et sans donner à cette mission un statut social dont on puisse être fier. Je crois que ce qui a fait la force de ce qu'on a appelé les hussards noirs de la République, c'est qu'ils étaient fiers de leur mission et de leur statut social. Eh bien, je crois qu'il faut aujourd'hui rendre fiers les enseignants de leur mission, leur dire clairement ce qu'on attend d'eux, ce que la nation attend d'eux, et qu'ils soient fiers de faire ce que cette nation attend d'eux. Je crois que ça, c'est pas très clair, et que effectivement, il y a une sorte de période un petit peu d'inquiétude, et pour certains, un peu de désespérance, c'est vrai.
Alors, c'est peut-être l'un des objets du grand débat que de recentrer sur l'essentiel et que ce soit la nation qui décide. Vous êtes partisan d'une loi, finalement, qui soit le consensus général et qui fixe clairement des objectifs clairs. Oui. Et ensuite, par contre, là aussi, point d'accord avec Darcos, laisser les gens se débrouiller un petit peu sur place.
Oui, moi
pour
je
aller
pense
vite, pour aller vite.
Oui, je pense qu'il faut inverser le processus actuel. Actuellement, le processus actuel, c'est pour dire très vite, hein, le jacobinisme technocratique sur les moyens et le libéralisme le plus grand sur les fins, sur les finalités, sur les objectifs. Autrement dit, dès lors que vous rentrez dans les clous sur le plan administratif et technique, vous pouvez faire absolument n'importe quelle politique éducative. Vous pouvez sélectionner, ne pas sélectionner, faire de l'hyper-élitisme ou faire du soutien aux élèves en difficulté. De toute façon, on vous donne des moyens. Il n'y a pas de politique éducative affichée. D'ailleurs, on aurait bien de la peine à trouver une politique éducative commune entre certains lycées de grandes villes qui sont extrêmement sélectifs, plus même que certains établissements privés, et puis certains lycées, on va pas dire de banlieue, mais de périphérie, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, voire des lycées professionnels. Bon. Donc je crois que là, on manque de boussole, on manque de repères. Il nous faudrait... Moi, je crois qu'il faudrait peut-être une loi sur deux types de problèmes particuliers. Le premier type de problème, vous l'évoquiez, ce sont, on pourrait dire, les contenus, les fondamentaux de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un élève doit savoir, on va dire, à la fin de la scolarité obligatoire ? Moi, je suis très attaché à la scolarité obligatoire parce que la scolarité obligatoire, on l'oublie trop, est inscrite dans la Constitution. Et l'école obligatoire entretient un rapport organique avec la République et avec l'État, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe après l'école obligatoire. Pendant l'école obligatoire, l'État a un devoir à l'égard de ses enfants, de leur donner les fondamentaux de la citoyenneté, sans lesquels on ne peut pas être un citoyen lucide qui décide en connaissance de cause et qui vit sans être manipulé par les autres. Donc je crois qu'il faudrait se fixer un certain nombre d'objectifs clairs de ce que tout le monde doit savoir, de ce qu'il n'est pas possible d'ignorer à 16 ans aujourd'hui pour un jeune. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'il faut rajouter par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et d'autres qu'il faut enlever. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui, à mon avis, doit être rajouté, c'est le droit. Pourquoi ? Ben parce que nous sommes dans une société qui n'est plus théocratique, mais démocratique. Dans une société théocratique, ce qui fait le lien social, c'est le catéchisme, puisque c'est Dieu qui dicte aux hommes la manière dont ils doivent se comporter. Dans une société démocratique, ce qui dicte aux hommes la manière dont ils doivent se comporter, c'est la loi, c'est-à-dire le droit. Bon, on a enlevé le catéchisme, mais on l'a remplacé par rien. Alors, on s'étonne que les enfants fassent n'importe quoi. Forcément qu'ils font n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas d'enseignement de la loi. Bon, moi, je crois que dans une société démocratique, la loi doit être enseignée. Elle doit être enseignée, on doit dire des choses très claires sur ce qui est permis, ce qui est interdit, pourquoi nul ne peut être à la fois jugé parti, pourquoi nul ne peut se faire justice soi-même, etc., etc. Et je pense que le droit devrait être une discipline à part entière, parce qu'on voit bien aujourd'hui que un bachelier sur 10 seulement, c'est la différence entre le civil et le pénal. Bon. Or, quand vous ouvrez votre journal, la différence entre le civil et le pénal, il faut que vous la compreniez pour pouvoir lire votre journal. Même, est-ce qu'une contravention, c'est du civil ou du pénal, hein ? La plupart des Français ne sauraient pas dire, ne sauraient pas distinguer ce qui est de l'ordre du civil et du pénal en matière juridique. C'est pas normal. Donc, je pense qu'il y a probablement des choses sur lesquelles on n'a pas assez insisté. Il faudrait dire clairement, voilà. Peut-être que le droit est plus important que le théorème de Thalès. Je fais de la provocation ici, mais il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut absolument savoir pour être citoyen, et puis faire une hiérarchie, et puis dire, voilà, ce qui est vraiment important. Moi, je pense que la connaissance de ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45, c'est fondamental. Or, ça n'est pas dans les programmes, d'une manière assez explicite, de la scolarité obligatoire. Et je crois que pourtant, la mémoire de cela doit être conservée chez les enfants d'aujourd'hui. Bon. Alors, on peut en discuter, bon. On peut être pas d'accord, mais il faudrait, je crois, que la nation tranche et dise, voilà, globalement, les grands objectifs. Alors après, on fera les programmes, hein, on dira, ça c'est en 6e, ça c'est en 5e, ça c'est en CM1. Tout ça, c'est un problème de technicien. Mais la nation devait trancher sur les grands objectifs. Et puis, le deuxième élément sur lequel il me semble qu'il faudrait avancer en termes de consensus social, c'est au fond, comment on veut organiser l'école ? Et en particulier, là, je crois qu'il y a un vrai débat, c'est quel est le rôle et le poids et la place des parents dans l'école ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très curieuse. Nous sommes dans la situation où, au fond, il y a une égalité de façade, mais se développe, on va dire, en dessous de table ou en dessus de table, d'ailleurs, ça dépend des cas, se développent des comportements qui sont individuellement légitimes, mais collectivement dévastateurs. Alors, je vais expliquer. Je dirige un établissement, l'autre jour, sans trahir un secret, une dame vient me voir, qui travaille à l'entretien, et me dit, ma fille est dans un collège où elle est maltraitée, elle est raquettée. Tous les jours, elle arrive en pleurant. Bon, collège public de mon quartier. Bien, moi, je vis toute seule, je peux pas trouver beaucoup de sous, donc je suis allé voir ma mère, qui a cassé sa tirelire, et je me suis mis sur la liste d'attente d'un établissement privé. Bon. Alors, est-ce que je peux dire à cette dame, madame, vous êtes une mauvaise citoyenne ? Vous êtes une mauvaise citoyenne parce que vous n'êtes pas pour la mixité sociale, parce que vous truquez la carte scolaire, parce que vous voyez l'intérêt de votre fille et pas l'intérêt de la nation, etc. Je peux pas le lui dire, parce que, bien évidemment, que son comportement est légitime. Cette dame veut légitimement mettre sa fille dans les bonnes, les meilleures conditions de scolarité possibles. Simplement, quand vous ajoutez tous les comportements individuels légitimes, vous ne faites pas forcément une institution qui marche. Hein, moi, je connais un collège des environs de Lyon, dans lequel à peu près tous les enfants habitent la même adresse, hein, 95 avenue Youri Gagarine. Allez, A, B, C, D, E, F, G, H. Hein. Ils n'ont même pas besoin de regarder leur montre, ils attendent d'entendre la sonnerie pour descendre. Hein. Ils descendent quand ça sonne. Tous les parents des enfants de ce collège vivent de l'aide sociale. Eh bien, quand un parent trouve du travail, qu'est-ce qu'il fait ? Il déménage, bien évidemment. Il va habiter dans une banlieue pavillonnaire où il a le sentiment que ses enfants seront dans un établissement moins violent, plus tranquille et plus studieux. Je ne peux pas leur dire à ces gens, vous avez tort. D'autant plus que eux, ils déménagent alors qu'il y en a qui déménagent même pas, qui cherchent une fausse adresse. Bon, eux, ils déménagent et ils payent le déménagement. Mais il n'empêche que le principal de ce collège, la principale de ce collège, me dit « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mon collège devient un baril de nitroglycérine. Parce que je ne conserve que les enfants dont les parents sont les plus en difficulté, qui sont donc eux-mêmes les plus en difficulté. J'ai donc des enseignants qui ne veulent pas rester parce que c'est trop difficile. Comme les enseignants ne restent pas, le collège se dégrade. Comme il se dégrade, les bons élèves ou les moyens élèves s'en vont. Comme les bons élèves et les moyens élèves s'en vont, ça vient de plus difficile. Comme c'est de plus en plus difficile, les professeurs ne veulent pas rester. Et alors, au bout du compte, où on va ? On va vers le fait qu'on a des établissements qui s'enfoncent dans des situations irrécupérables. Et je crois que ça, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire, parce que si on laisse faire, on va vers une situation de vraie fracture scolaire, avec des gens qui seront dans des lieux plus ou moins privilégiés, et d'autres qui seront assignés à résidence, dans des endroits où ils auront le sentiment qu'ils ne sont guettés que par l'échec. Donc là, je crois qu'il y a un vrai enjeu politique, et je crois que là-dessus, la nation doit dire ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut... une loi qui dit il y a des bons établissements et des mauvais, pour rentrer dans les bons, on met des examens, et ceux qui ne rentrent pas, ils vont dans les mauvais. Est-ce qu'on dit on organise les choses autrement ? Est-ce qu'on dit on fait un effort particulier envers les établissements en difficulté beaucoup plus important que celui qu'on fait aujourd'hui ? Je crois qu'il faut réfléchir à des solutions. On ne peut pas laisser se dégrader la situation sans intervenir. Il me semble que c'est un vrai enjeu.
Vous dites dans votre livre que les parents d'élèves se comportent souvent comme des passagers d'un avion qui voudraient apprendre à conduire au pilote.
Oui, non, je dis que moi, quand je suis rentré à l'école, il y a déjà très 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 longtemps, mes parents m'ont mis dans l'école comme aujourd'hui, moi je rentre dans un avion. D'ailleurs, moi quand je rentre dans un avion, je ne vais pas expliquer au pilote comment il démarre, comment il atterrit et par où il doit passer. Je lui fais confiance. Moi, mes parents, ils ont fait ça avec mes instits. Mes instits, ils décidaient tout. Mes parents décidaient rien. Eh bien, aujourd'hui, les parents décident. Et ils veulent décider. Et le problème, enfin c'est un problème à la fois un atout, c'est que certains ont d'ailleurs les compétences pour piloter. Et ils peuvent dire, moi je suis, après tout, je suis aussi compétent que le pilote. Donc j'ai bien le droit de décider où on va, où doit aller mon enfant, pourquoi, etc. Et si on ne veut pas me donner satisfaction, ben, je trouve un système. Je le mets dans le privé une année, je le remets dans le public l'année d'après, je lui fais faire telle option, je me débrouille pour lui faire faire tel truc, tel machin, telle chose. Si on n'y arrive pas, j'insiste un peu... Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que dans tout ou presque les collèges de France, il y a des classes CAMIF. Qu'est-ce que c'est la CAMIF ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la mutuelle, c'est la coopérative d'achat des instituteurs, c'est-à-dire des fonctionnaires. Mais les classes CAMIF, c'est quoi ? C'est les classes des enfants de profs, où on met quasiment que des enfants de profs. On sait bien que ce sont les meilleures classes. Bon, d'une certaine manière, c'est une privatisation de l'intérieur de l'enseignement public, ça. Je dis pas que c'est systématique et que c'est malveillant. Je n'incrimine nullement les parents. Hein. Les parents, pour moi, moi je suis parent, je sais que c'est super dur. C'est très très difficile d'être parent. Mais vraiment, c'est très dur aujourd'hui. Moi-même, je suis même pas sûr d'y arriver. D'y être arrivé et d'y arriver encore, quoi. Mes enfants sont grands. Mais c'est vraiment très difficile. Donc les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ils voient leurs enfants en difficulté, ils cherchent une solution. Mais c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est que comme il n'y a pas de projet collectif, chacun est livré à ses solutions individuelles. Voilà, c'est ça. S'il y avait un vrai projet collectif, je pourrais dire à la dame qui vient me voir, mais attendez madame, il y a un vrai projet dans l'établissement, il y a un vrai travail pour lutter contre ça, il y a des profs mobilisés, on leur donne des moyens, on les aide. Donc, partez pas, restez, et puis au contraire, aidez-nous. Parce que c'est une volonté politique forte, parce qu'il y a quelque chose... Mais on le sent pas, ce vrai projet collectif. Donc les gens, ils se disent, tirons notre épingle du jeu. Et moi, d'une certaine manière, je ferais peut-être pareil aujourd'hui avec mes enfants s'ils étaient en situation très difficile dans un établissement. Moi, je ne critique pas les parents. Hein. Je dis simplement, quand il n'y a pas de vrai projet collectif, il n'y a que des intérêts individuels. Et ça dilue l'institution. Et ça fait qu'on ne sait plus trop où se tourner.
Il nous reste 5 minutes. Alors, il y a évidemment énormément de choses dans ce livre. Dans Faire l'école, faire la classe, votre dernier livre, le 100e livre de la collection...
Pas mon 100e livre.
Le 100e livre de la collection que vous dirigez chez ESF. Et à la fin, 5 mots-clés que j'ai beaucoup aimés, qui seraient les dérives de l'école. Vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous appelez la dérive des continents. C'est-à-dire l'école avec chacun qui part comme ça dans son coin. Vous pouvez nous dire en une minute ce que vous appelez l'école raffinerie ?
Oh ben, l'école raffinerie, c'est l'école qui utilise la distillation fractionnée comme principe de fonctionnement, c'est-à-dire qui considère que pour que la réussite des uns ait de la valeur, il faut l'échec des autres. Vous savez, tous les parents, quand ils reçoivent le bulletin de leurs enfants, ils regardent, et puis s'il y a une bonne note, ils se réjouissent. Puis quelle est la question qu'ils posent ? C'est « Et les autres, ils ont combien ?» Hein ? Et si les autres ont aussi une bonne note, eh ben, ils sont très inquiets, les parents, parce qu'ils se disent « Si mon fils a 18, mais que tout le monde a 18, c'est que le 18 vaut rien. » Donc, que chacun veut que ses enfants aient une bonne note, à condition que les enfants des autres en aient été mauvaises, n'est-ce pas ? Eh bien, ça, c'est le principe qui oblige, d'une certaine manière, les enseignants à utiliser ce que, dans notre jargon, on appelle la courbe de Gauss, c'est-à-dire un système qui les amène à toujours avoir un tiers de nul, un tiers de moyen, un tiers d'élite. Et si je peux me permettre un conseil, Jean-Claude, il faut se débrouiller pour ne jamais être dans le dernier tiers, même le dernier tiers des meilleurs. Parce que le dernier tiers est toujours éliminé, c'est le principe de la distillation, c'est le principe de la raffinerie. Donc, et ça, c'est insupportable. On ne peut pas accepter un fonctionnement pareil. Par exemple, sur la lecture ou sur les fondamentaux de la citoyenneté dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas éliminer un tiers des élèves et puis avoir un tiers de moyens, un tiers de bons. Il faut avoir 3/3 de gens qui accèdent à ces fondamentaux. Enfin, tous les Français savent marcher, sauf les grabataires. Moi, parfois, je me dis, heureusement que l'école n'enseigne pas à marcher aux enfants, sinon vous aurez 1/3 de grabataires, 1/3 de gens qui marchent avec une canne et 1/3 de marathoniens, hein, comme en maths. Hein, c'est ça que j'appelle la raffinerie. Et je trouve que c'est dommage de fonctionner comme ça.
Alors, j'évoque simplement le western. On voit l'école transformée en lieu où la violence est présente.
Le rapport de force.
Le désert, c'est l'endroit où on s'ennuie, hein, on attend tranquillement que le temps passe. Ou la Tour d'Ivoire, l'école complètement coupée du monde extérieur.
Des parents en particulier.
Des parents. Alors, pour finir, dernière question. Vous évoquez, je crois que c'est vous qui évoquez, l'idée d'un serment d'Hippocrate des professeurs. C'est un petit clin d'œil, bien sûr, mais vous y mettriez quoi dans ce serment d'Hippocrate des professeurs quand on sait qu'un nombre considérable d'enseignants doivent être recrutés dans les années qui viennent ? Et je salue certains des jeunes qui sont là et qui vont devenir enseignants.
Le serment d'Hippocrate du médecin, c'est « Tant que quelqu'un n'est pas mort, je dois tenter de le guérir ». Le serment d'Hippocrate de l'enseignant, c'est « Tout élève est éducable et tant qu'il est devant moi, je dois tout faire pour lui apprendre, l'aider à apprendre, enseigner le mieux possible et non pas me débarrasser de lui en disant « Il n'est pas doué ». Je lui mettrai par exemple que je n'ai jamais le droit d'utiliser ce prétexte fallacieux qui est « Il n'a pas les compétences, il n'a pas les capacités, il n'est pas doué ». Tout le monde a les compétences et les capacités pour faire ce que l'école attend au niveau de la scolarité obligatoire. Tout le monde peut accéder à la lecture, tout le monde peut accéder au programme de géographie, d'histoire ou de mathématiques de troisième. C'est pas une question de don. Tout cerveau normalement constitué, je ne parle pas bien évidemment de personnes qui seraient lésées hein, sur le plan cérébral, peut accéder à ces savoirs-là et je n'accepterai pas pour ma part que on m'écarte. Je ne veux pas. Enfin, je suis choqué parce que j'ai parfois l'impression que l'école fonctionne comme un hôpital qui soignerait les bien portants et qui mettrait dehors les malades pour améliorer son taux de réussite. Voilà. et ça, c'est quand même un peu dommage. Je souhaiterais qu'on s'appuie sur les médecins un peu qui, au fond, donnent et ont confiance. Font confiance jusqu'au bout et le plus loin possible. Et puis, je souhaiterais aussi que comme les médecins, nous utilisions plus souvent les ordonnances et que nous ne nous en tenions pas au bulletin de santé. Parce que quand je vais voir mon médecin et que je lui dis « j'ai la grippe », s'il me dit « vous avez la grippe », je ne reviens pas voir mon médecin. S'il me dit simplement « vous avez un cancer, vous êtes incurable », je ne reviens pas voir mon médecin. Je vais chez mon médecin pour qu'il me dise comment faire pour me soigner. Eh bien, je crois que dans le serment d'Hippocrate de l'enseignant, il faudrait dire aussi qu'on ne dit pas simplement à un élève « t'es faible en anglais ». On lui dit « comment tu fais pour devenir fort ?» On ne dit pas simplement à un élève, tu n'y arriveras pas en mathématiques, on lui dit, au contraire, tu y arriveras si tu fais ceci ou si tu fais cela. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de pointer que l'élève est malade, mais on lui donne les moyens de se soigner. Ce qui, je crois, serait conforme à l'idée que je me fais du serment d'Hippocrate.
Merci Philippe Mérieux. Le livre « Deux voies pour une école », Xavier Darcos, Philippe Mérieux, chez Des Clés de Bouvert. La semaine prochaine, l'émission est à 16h au Théâtre Copeau.
Non, pas l'émission.
Le rendez-vous est à 16h au Théâtre Copeau à l'Esplanade. L'émission est bien sûr à 18h, consacrée à Despierres, François Seria Despierres et Lydia Renbourg. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.